Europe 1 Sport, configuration Coupe du Monde, Lionel Rosso.
Ce qui est bien avec cette chanson, avec Gala, c'est qu'elle unit toutes les générations. Même Thierry Bretagne, qui n'est pas le plus jeune, mais qui n'est pas le plus vieux non plus, connaît Gala, bien sûr. C'est l'hymne de la victoire de l'équipe de France, mon cher Thierry.
Absolument.
C'est peut-être pas la peine d'aller jusque-là,
voilà.
Thierry.
On va me jeter des pièces pour que je m'arrête.
Jean-François Pérez peut reprendre cette chanson avec nous parce que Jean-François chante juste lui. Je vous le confirme, mais je le sais. Non, c'est vrai, Jean-François, vous chantez juste. Vous êtes l'un des rares, d'ailleurs, de cette émission à chanter juste. Non, mais c'est vrai, Jean-François.
Attendez, j'aime chanter.
Vous avez
j'aime
eu un passé canto. De chanteur, je tiens à le préciser. Révèle peut-être une exclusivité sur Europe 1, mais il y a quelques années, Jean-François Pérez, qui est au Qatar, le chef du service des sports d'Europe 1, envoyé spécial d'Europe 1 à la Coupe du Monde, était le leader et le chanteur d'un groupe de pop.
Voilà. Ah, de pop, il n'était pas au bariton à l'opéra.
Je ressortirai les bandes magnétiques en temps voulu et
je les ai quelque part.
Je le sais. Le Journal des Bleus, Jean-François, vous étiez avec Jacques Vendroux qui nous retrouvera tout à l'heure. Cyril de la Morinerie également au contact de cette équipe de France. Quelles sont les dernières nouvelles ?
Elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que tous les joueurs ont participé à l'entraînement ce soir, qui était programmé ici vraiment en tout début de soirée. Kylian Mbappé était là, puisque c'est la question, je pense, que tout le monde se pose ces jours-ci. Il a vraiment été aux soins en récupération hier et tout le monde s'est un petit peu affolé. Mais c'était vraiment une stratégie, on va dire, qui était parfaitement calculée parce que tout avait été en fait décalé. On s'est un peu tous affolés ici parce que, en fait, les Bleus, après la qualification face à la Pologne, ont eu un jour de repos. Et en fait, ça a décalé de 24 heures tout le processus habituel. Et ce qui était la logique, on va dire, d'un plus 1 est devenu la logique du plus 2. Et donc Mbappé, comme il le fait en plus 1, cette fois c'était plus 2, est resté au soin en récupération. Il était sur le terrain ce soir avec tous ses coéquipiers qui vont bien. Apparemment, il n'y a pas de bobo à signaler au sein de cette équipe de France. Et on a travaillé pas mal la tactique et les 2-3 points qui posent problème, on va dire, depuis le début du tournoi. Et notamment les coups pied arrêté défensif, parce qu'on voit bien et on s'en souvient, l'équipe de France est friable sur ce type d'action. Le but du Danemark, hein, par exemple, vous vous en souvenez, avec ce ballon qui rebondit en pleine surface, on ne sait pas très bien les zones, qui prend qui, pourquoi, comment, à quel endroit. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, l'Angleterre, je pense que c'est un adversaire que tout le monde connaît, même si ça fait quelques années que Français et Anglais ne se sont pas rencontrés. Mais tout le monde connaît évidemment parce que les échanges culturels, j'allais dire, et footballistiques entre les deux pays sont tellement intense avec les Français qui jouent en Première Ligue, qu'on en a eu d'ailleurs un exemple pas plus tard que cet après-midi en conférence de presse.
Kylian Mbappé, ça pose vraiment question, en tout cas ça fait débat à travers le monde, mais notamment en Angleterre. Les médias anglais n'hésitent pas à en faire leur une, à en parler régulièrement. Le plan anti-Mbappé, d'ailleurs on en parlera à partir de 22h. Vous savez, Thierry Bretagne, Pauline Gamer et Jean-François Pérez et Emmanuel Baranguet le savent également, qu'il y a depuis 2 ans, dans le staff de l'équipe anglaise, un homme, un garçon qui travaille sur le cas de l'équipe de France, le jour où les Anglais affronteraient les Français. Ce jour est arrivé et évidemment il y a le cas Mbappé à l'intérieur. On est en train de mettre au point un système Mbappé, on en parlera à partir de 22h. C'est incroyable, c'est une enquête d'un journal anglais qui a révélé tout ça cette semaine. C'est assez exceptionnel. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur le cas de Kylian Mbappé, en effet parce qu'il fait peur et parce qu'il est tout simplement Emmanuel Baranguet aujourd'hui, à la lumière de ses performances, des buts aussi, puisqu'il est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, le meilleur joueur du Mondial.
Bah, pour l'instant, oui, il a vraiment crevé l'écran et c'est de l'ordre du destin. Là, on sent qu'il l'a dit d'ailleurs, qu'il s'était préparé, il est obsédé par cette Coupe du Monde et il s'est préparé pour ça. Il est arrivé lancé à cette Coupe du Monde, il est en pleine forme physique, en pleine confiance. Et il faut voir en plus que dans ces matchs, il y a encore un petit peu de déchets. C'est-à-dire que si en plus il franchit encore un palier, s'il s'améliore encore un tout petit peu, ça va vraiment être énorme.
Pourquoi est-il plus fort encore, selon vous, Pauline Gamer, et notamment au rendez-vous de cette Coupe du Monde ?
Oui, alors il faut quand même attendre de pouvoir affronter des équipes un peu plus compétitives qu'on l'a fait jusqu'alors. Il faut attendre les matchs à élimination directe avant de proclamer qu'il est encore meilleur.
Pologne, ce n'était pas un adversaire à la taille de Kylian Mbappé pour le jauger, en tout cas, selon vous.
Non, la Pologne, c'était une des première fois depuis très très longtemps qu'ils étaient à ce niveau de la compétition. Donc en effet, avec l'Angleterre, on va commencer à avoir des équipes qui peuvent davantage prétendre. prétendre, même s'il y a eu des surprises de par ailleurs, mais davantage prétendre à proposer une opposition crédible. Et c'est dans ces matchs-là, vous savez, il peut faire de très beaux matchs en poule. S'il rate un pénalty comme il l'a fait contre la Suisse, plus personne ne dira que c'est le meilleur joueur de la compétition. On juge les grands joueurs sur les grands matchs. Et aujourd'hui, on n'a pas eu encore ces grands matchs. Il est très concentré, il mène l'équipe, il y a une entente qu'on sent vraiment très forte entre tous les attaquants de l'effectif. Mais attention, ne nous emballons pas trop vite, puisque le plus dur est à venir.
On a l'impression néanmoins que nous sommes les seuls, enfin les Français, je nous associe, Thierry Bretagne, à cette équipe de France, nous sommes les seuls à disposer de cette arme fatale tout de même. Il n'y a pas d'autre Kylian Mbappé dans les autres sélections qualifiées pour les quarts de finale,
en tout cas
à ce niveau-là.
En tout cas, il a survolé ce que j'appellerais les bagatelles de la porte, ou les acousquis, ou les apéricubes.
Ou les acouphènes aussi.
Oui, et les acouphènes aussi, parce que ça nous fait quelquefois du bruit un petit peu au niveau des tympans. Mais Pauline a eu raison de dire qu'on en était aux amuse-gueules. C'est-à-dire que la coupe du Monde, la vraie, commence maintenant. Elle a bien commencé pour nous, effectivement, par une équipe, on va dire, polonaise à notre portée. Mbappé n'a pas toujours été excellent, mais il a été parfois létal, décisif, foudroyant. Et c'est ça qui reste dans la rétine, à mon avis, des supporters, des adversaires. C'est sa propension à, d'un seul coup, faire basculer le match dans quelque chose d'exceptionnel, d'intersidéral, de cosmique, enfin de tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il a ça. Et il a en plus, et je crois qu'on pourra aussi prolonger là-dessus, l'art de faire de ces... C'est un être résilient, quand même. C'est-à-dire l'art de faire de ces petites cicatrices, en quelque sorte, des armures. On a l'impression que tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, l'histoire du pénalty raté, l'histoire de ses coups de tête, de sa melonite plus ou moins aiguë, il arrive à dompter tout ça et à s'en faire une cuirasse extraordinaire. Et ce qui est saisissant, c'est effectivement qu'il est dans cette Coupe du Monde pour l'instant, là où on ne l'attend pas tout à fait, c'est-à-dire dans le silence et dans les actes, ce qui permet à M. Deschamps de dire « il pense avec ses pieds, bah, des penseurs comme ça, avec leurs pieds, on en veut ». Et on en redemande.
Même s'il a repris la parole la dernière fois et qu'il a commencé à s'exprimer, mais il ne voulait pas. On l'a expliqué hein, sur l'antenne d'Europe 1, comme le sponsor est une marque de bière, quand il était nommé ou élu meilleur joueur du match, il ne voulait pas aller récupérer ce prix pour ne pas avoir à s'exprimer et valoriser un sponsor qui ne lui agrée pas. On évoque avec vous aussi l'adversaire au travers du nombre de joueurs de Première Ligue qui sont présents. Jean-François Pérez, il y en a côté français, il y en a 5, on les a comptés, mais c'est vrai que dans ces quarts de finale, il y a tout de même 65 joueurs hein, qui évoluent en Première Ligue. Si on prend toutes les sélections des équipes qui sont en quart de finale, c'est quand même très impressionnant. Et dans ces joueurs-là, il y a évidemment Ibrahima Konaté.
Oui, et il y aura sans doute aussi Adrien Rabiot, on y reviendra tout à l'heure, mais il a quand même fait une sortie assez étonnante en conférence de presse cet après-midi. Vous savez qu'il est en fin de contrat à la Juve et on lui a posé la question de savoir où il voulait aller. Il a dit que la Première Ligue, ça faisait partie de son plan de carrière et qu'il se verrait très très bien jouer très bientôt en Angleterre. Je ne vous dis pas la joie des journalistes anglais qui ont entendu ça à 3 jours du match contre la France. Bref, on va en reparler de Rabiot tout à l'heure, mais donc Ibrahima Konaté, jeune défenseur, 23 ans, l'une des surprises, on va dire, hein, de la liste de Didier Deschamps. Ancien de Sochaux, ancien de Leipzig notamment, où il s'était révélé, qui est arrivé l'année dernière à Liverpool. Et c'est un défenseur qui monte, c'est un défenseur qui est sûr de lui, qui est bon techniquement, qui est impressionnant physiquement, vraiment un défenseur moderne et puis aussi, j'allais dire, brillant dans son élocution. C'est un joueur qui pense son métier, qui voit pas mal de choses et il voit très bien notamment l'évolution qui a été la sienne depuis qu'il est arrivé à Liverpool en Première Ligue. Il a tenu à rendre hommage, on va dire, au championnat anglais avant de retrouver quelques-uns de ses meilleurs amis, et notamment de Liverpool. On écoute tout de suite Ibrahima Konaté.
C'est clair que le foot anglais, ce qui m'a apporté, c'est une concentration beaucoup plus importante, car les matchs sont d'une intensité assez exceptionnelle. Et la concentration, on doit l'avoir jusqu'à la dernière minute, car une erreur, c'est pas pour comparer avec la Bundesliga, mais quelques erreurs en Bundesliga, tu vas pas forcément l'écouter, mais en Angleterre, tu les payes cash. Et je pense que c'est ça, et l'agressivité et le physique, que chaque équipe peut être dangereuse, qu'elle soit dans les premières places du tableau ou en dernière position. Chaque équipe est dangereuse et il faut être concentré chaque week-end, et chaque match est très important et très difficile.
On va se demander dans quelques instants si ce ne serait pas une bonne idée, étant donné qu'il joue à Liverpool, qu'il connaît la première ligue, peut-être de l'associer à Varane. Je ne suis pas certain que ce soit une idée de Didier Deschamps et il ne changera sans doute pas d'avis. Mais on peut en discuter parce que ça fait un peu de gras, en effet. Mais d'abord, Thierry Bretagne a noté, parce qu'il a été très attentif aux déclarations, aux conférences de presse des joueurs de l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que Konaté, c'est mens sana in corpore sano, c'est-à-dire que c'est véritablement quelqu'un qui s'exprime bien, qui est à la fois aussi un très bon joueur, solide. Il a tout, quoi. C'est presque le genre idéal, Thierry Bretagne.
Mais c'est ça qui m'a surpris aussi. La maîtrise, l'élocution. J'entendais les réactions des journalistes après la conférence de presse, enfin le point presse, donné par ce joueur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre s'exprimer devant la presse mondiale et qui semble le faire avec un naturel, une clarté, un sens de la synthèse aussi, à vrai dire, pour ne pas nous révéler grand-chose, parce que ces jeunes garçons bien éduqués, et je parle de Tchouaméni, je parle d'Upamecano, que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé magnifique aussi, de naturel, ce sont des gens qui s'expriment bien, qui pensent bien, qui intègrent en quelque sorte les slogans et tout ce qu'on leur demande de dire ou de ne pas dire, mais de le faire avec une aisance, une élocution extrêmement impressionnante.
Et ce sont
et
des bons
tous
joueurs,
des gamins.
Ce qui ne gâche
et c'est
rien.
Tous de très bons joueurs.
Ça, c'est un avantage.
Oui.
Alors, l'idée de Konaté, Emmanuel Baranguet, ça ne vous a pas effleuré l'esprit tout de même de le faire jouer contre les Anglais? Ce serait pas une bonne idée?
Ça serait peut-être une bonne idée, mais non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit. Vous ne croyez
c'est
pas que
vous n'y pensez pas en vous rasant le matin, Emmanuel?
Il est bien rasé en plus aujourd'hui. Pas nickel, il est allé chez le barbier.
Il faut se raser pour passer à la radio, c'est très important. Ma mère a beaucoup insisté. Non, il ne changera pas son équipe, Didier Deschamps. Upamecano, il a disputé des bons matchs. Il ne changera pas, il ne sortira pas de l'équipe. Mais Konaté est très bon. Et effectivement, je suis d'accord. Dès ses premiers matchs, on l'avait trouvé très bon. Et les journalistes l'avaient tout de suite adoré parce qu'il est assez nature. Et je pense que contrairement à Upamecano, il y a beaucoup d'autres. Il n'a pas dû être trop médiatraîné encore parce qu'il est assez cash. C'est plutôt agréable.
Vous pensez que tous les joueurs de l'équipe de France sont médiatraînés, Emmanuel ?
Je pense que tous les professionnels du monde entier sont médiatraînés. Et ce ne sont plus que des exceptions qui ne sont pas médiatraînés. Ou alors, ils le sont tellement bien que du coup, on s'en aperçoit plus.
Avec un petit peu de recul, donc je me dis qu'il y a sans doute de très bons élèves, mais parfois de mauvais coachs parce que tous les joueurs de foot ne s'expriment pas magnifiquement bien au micro des médias. Ce n'est pas le cas, comme le soulignait en effet Thierry Bretagne, d'Ibrahima Konaté. Juste un petit mot sur ce côté anglais de 5 joueurs français. On le sait, alors Areola qui joue en Angleterre n'a pas vraiment beaucoup de chances de retrouver le terrain, tout comme Saliba. Mais tout de même, ce cousinage, vous en pensez quoi, Pauline?
Ah ben, c'est sûr qu'on a toujours eu plus de joueurs français évoluant en Angleterre que l'inverse. Les Anglais ne connaissent pas grand-chose du championnat de Ligue 1.
Non, mais pour Lloris, par exemple, qui joue à Tottenham, s'il venait à se retrouver face à l'un de ses partenaires, est-ce que ça pourrait être un avantage pour nous?
C'est peut-être un avantage pour Kane.
Plus pour Kane?
C'est toujours plus un avantage pour un attaquant. Maintenant, bien sûr que de toute façon, au-delà du championnat anglais, ce sont des joueurs qui sont habitués à se rencontrer en Coupe d'Europe, dans les grands matchs, dans les grands championnats. Ils se connaissent tous par cœur. Donc on va avoir en effet des joueurs qui ne vont pas s'étonner comme certains coachs se sont étonnés sur des joueurs marocains. Je pense que c'est pas là que ça va se jouer, parce qu'en effet, malgré tout, l'ossature ne joue pas en première ligue.
Quand vous faites allusion avec un peu d'ironie au coach Luis Enrique, donc l'Espagnol qui disait que le numéro 8 marocain était extraordinaire, que c'était un joueur formidable. Et on connaît le résultat de Espagne-Maroc avec une qualification au tir au but. On y reviendra après 22h. Jean-François Pérez, vous avez bien teasé le cas Rabiot tout à l'heure avec des velléités peut-être d'aller en Angleterre, parce que c'est vrai que c'est aussi l'un des joueurs les plus performant de cette équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde. Il est là, le Duc.
Il est là et il est extrêmement là. Et quand vous voulez quand même vous retourner sur les 4-5 dernières années d'Adrien Rabiot, ça tient quand même un petit peu du miracle, parce que 2018, quand il refuse d'être réserviste, il nous l'a dit et redit cet après-midi, après la Coupe du Monde 2018, il n'a pas eu Didier Deschamps au téléphone pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, l'histoire de Rabiot avec les Bleus, c'est du vide. Voilà. Et derrière, les parties se sont un petit peu rabibochées. La mère de Rabiot, je pense, qui, vous savez, son agente, a mis un peu d'eau dans son vin. Je pense que chacun avait intérêt à se retrouver, parce que c'est quand même un talent, que vous le vouliez ou non, un talent rare en France. Un milieu de terrain qui est à la fois très présent physiquement, qui arrive à bien bloquer les zones. On l'a vu depuis le début du Mondial avec Théo Hernandez, Mbappé. Enfin, à gauche, c'est quand même extrêmement costaud. On a peut-être le côté gauche le plus fort de ce mondial, avec le Brésil peut-être. Et Rabiot, c'est également quelqu'un, c'est un stratège, c'est quelqu'un qui est capable d'adapter son jeu en fonction de l'évolution d'un score. Il est capable de se projeter devant, il n'a pas de problème avec ses pieds, il a quand même une technique assez formidable. Donc c'est un talent, j'allais dire, dont la France, sans Pogba, sans Kanté, sans d'autres joueurs de renom au milieu de terrain, ne peut pas se passer, clairement. Et Rabiot l'a bien senti. À 27 ans, il est, avec Tchouaméni, dans une moindre mesure, le leader du milieu de terrain de cette équipe de France. Et je vais poser la question cet après-midi, une question toute simple en fait. Est-ce que vous, avec votre parcours parfois un petit peu tourmenté, votre personnalité qui est quand même parfois un peu difficile à lire, est-ce que vous aviez déjà été aussi heureux sur un terrain de foot, dans la vie du groupe en général, depuis le début de cette aventure? Écoutez la réponse d'Adrien Rabiot.
C'est vrai que je traverse une très bonne période footballistiquement parlant, depuis plusieurs mois à la Juventus, et puis là sur ce mondial. Ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri. Mon football également a grandi aussi. Je dirais que c'est sans doute la meilleure période que j'ai eue dans ma carrière.
Rabiot, qui effectivement est particulièrement en forme actuellement, mais Emmanuel Baranguet, on se demande s'il est tout de même l'incarnation de la joie de vivre, ce garçon. Alors peut-être est-il un peu en retrait quand il est devant les médias, mais ce n'est pas le joueur le plus drôle. Enfin, c'est pas le genre à raconter des blagues non plus. Hein. Enfin, je sais pas. Je me pose la question. Vous qui connaissez bien, vous qui avez écrit l'histoire illustrée des Bleus, vous devez connaître la réponse, Emmanuel Baranguet.
Et qui connaît bien le foot italien. Vous savez qu'il a passé plusieurs années en Italie.
Oui, je connais bien le foot italien aussi. Je crois que ça, c'est un masque. Il y a le professionnel qui nous montre ça, et je ne suis pas du tout sûr que dans le groupe, ça soit un triste. Il n'aime pas trop la partie médiatique de son métier, Rabiot. Il le fait, il l'a bien fait cet après-midi. Il était assez nature, justement, un peu comme Konaté. Moi, j'aime bien ça. Il a parlé simplement. Il doit bien se douter quand même avec l'entraînement qu'il a, que s'il dit qu'il aimerait bien jouer en Angleterre avant France-Angleterre, ça va secouer. Et il n'a pas fait de cette fausse modestie qui, moi, m'agace chez les champions. Les grands champions n'ont pas à faire de fausse modestie. Il a dit, bah oui, je suis en forme, j'ai rarement joué aussi bien, ce qui est la pure vérité. Je pense qu'il est assez pro pour ne pas nous montrer sa vraie personnalité. Donc, je suis
mais il l'assume,
pas...
hein, le oui, fait de ne pas montrer sa vraie personnalité.
Et, je ne ouais. suis pas dans le secret des vestiaires. Ça ne m'étonnerait pas, moi, que ça soit quelqu'un de plutôt rigolo et agréable. J'ai un peu mieux connu Dimitri Payet à l'OM. Il n'aime pas beaucoup les journalistes. Il reste un petit peu distant. C'est le mec le plus drôle du vestiaire.
Pauline Gamère, que pourrez-vous nous dire sur Adrien Rabiot et sa propension à raconter des blagues? Vous voyez, il lit TéléZ peut-être régulièrement pour les blagues, les histoires.
Je ne sais pas s'il écrit les blagues carambar, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même quelqu'un de très discret dans un groupe, notamment en équipe de France. Et c'est la raison pour laquelle Didier Deschamps, il était véritablement tombé de l'armoire quand Rabiot avait renoncé à sa sélection. Parce que c'était quelqu'un qui ne posait pas de problème dans le groupe, qui était même peut-être un peu trop à l'écart, mais pas du tout, en effet... ni blagueur, mais même peu impliqué dans la vie du groupe. Assez discret, assez en retrait.
Un peu détaché, en fait. Hein. C'est l'impression qu'il donne, Adrien Rabiot, même si sur le terrain, et c'est bien là l'essentiel, il donne le maximum, il apporte beaucoup à cette équipe de France.